Et on va continuer à parler politique, donc vous restez avec nous, Frédéric. Nous sommes en compagnie de Vincent Trémollet de Villers, qui est rédacteur en chef des pages débat du Figaro, de Cécile Alduit, qui publie « Ce qu'ils disent vraiment, les politiques pris au mot », autrement dit, une analyse du discours des politiques. Et on va reprendre là où nous avions laissé la scène politique, autrement dit, avec Emmanuel Macron. On l'écoute, il était le 8 décembre 2016 au micro de RMC.
Je crois au travail. Donc oui, je suis le candidat du travail. S'il y a une chose à laquelle je crois, dans une société qui doute, dans une société qui parfois, sur le plan économique, social, voire moral, est en train de s'affaiblir, c'est que ce qui nous donne une place dans la vie, c'est le travail. Ce qui fait qu'on est reconnu, c'est le travail. Et ce que je veux pouvoir faire, c'est justement donner à chaque Français, dans un monde en pleine révolution, la possibilité de trouver sa place par le travail. Pas forcément l'emploi à plein temps pour tout le monde, on le sait bien, parce que ce monde va changer.
J'y viens.
Mais le travail.
La pédagogie, c'est la répétition, Cécile Alduit. Oui, le mot travail.
Oui, alors, François Hollande avait permis d'acclimater le mot anaphore dans le langage commun, et maintenant tout le monde s'y met. Donc la répétition, c'est vrai, même. Ce qui est important pour, je pense, pour l'analyse, c'est que ce qu'on répète, c'est ce qui signifie. Et. Le mot « travail » répété ici est en fait assez ambigu d'un point de vue de positionnement politique. C'est à la fois le travail que Nicolas Sarkozy, en 2007, voulait revaloriser, la valeur travail, mais c'est aussi le travail à gauche, la dignité du travail, des travailleurs, etc. Donc c'est un mot un petit peu carrefour qui va bien avec le positionnement d'Emmanuel Macron, qui se veut aussi au carrefour de la droite et de la gauche.
Vincent Trémollet de Villers, vous vouliez dire tout le mal que vous pensiez d'Emmanuel Macron.
Ah non, je n'en pense aucun mal. Je m'intéresse beaucoup à ce candidat parce que je trouve dans sa rhétorique, puisque c'est le sujet de ce matin, des choses qui normalement ne sont pas dans la politique. Si on écoute un discours d'Emmanuel Macron, on est à mi-chemin entre ce qu'on pouvait entendre quand on les fréquentait, les aumôneries, et le discours managérial des entreprises. C'est-à-dire qu'on va cheminer, on est ensemble, on va débloquer, on va avancer, on va bouger. Mais on ne sait jamais vers où l'on va. Et ce qui est extraordinaire...
Vous voyez, vous commencez à en dire du mal.
Non, puisque je pense qu'il fait, il applique cette phrase qu'on ne devrait plus prononcer, parce que c'est un autre Pantosane, vous en parlez tout à l'heure, c'est la phrase du cardinal de Ré, on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment. Il sait très bien que pour pouvoir ratisser à gauche et à droite, il ne faut pas qu'il soit trop précis. Donc il crée une dynamique, mais une dynamique qui n'est pas fondée sur une vision. Et ce qui est fascinant pour le moment, c'est que ça fonctionne. Alors, pour comprendre ce qui se passe, il faut peut-être aller regarder vers l'Espagne, ce qui s'est passé il y a quelques années, pour comprendre le phénomène Macron et le phénomène Mélenchon, c'est-à-dire Ciudadanos, qui était le parti de centre-droit, qui était un parti participatif, et Podemos, qui essaie de faire Jean-Luc Mélenchon avec les Insoumis. Donc c'est une forme...
Le premier a fait long feu.
Voilà, mais c'est une forme politique qui a réussi à exister, et puis qui n'a pas duré très longtemps. Alors je ne sais pas si c'est le destin d'Emmanuel Macron, mais pour le moment, nous avons les formes nouvelles et un fond qui n'apparaît pas très consistant.
Reprenons sur le travail des mots, puisque Vincent Trémollet de Villers explique qu'à ses yeux, le fond du discours d'Emmanuel Macron n'est pas très consistant. En tout état de cause, Cécile Alduit, on a des difficultés à mémoriser ne serait-ce que des slogans d'Emmanuel Macron. On ne sait pas très bien en quoi consiste son discours. On observe qu'il attire vers lui l'assentiment d'un certain nombre de personnes, qu'il fait des couvertures de magazines, encore le point du jour. Mais alors, vraiment, les mots, est-ce aussi important que cela en politique quand on observe le succès d'Emmanuel Macron?
Oui, parce que les mots, c'est aussi prononcer des mots, c'est-à-dire c'est incarner un discours. Donc la performance théâtrale de l'orateur politique est aussi importante que le contenu du discours qu'on va lire et analyser, décrypter. Et Emmanuel Macron, il est dans le mouvement, il est aussi simplement dans la performance politique de la nouveauté. Il a commencé par prendre à rebours toutes les pratiques des partis politiques, c'est-à-dire il est hors parti, il va d'abord demander aux gens, c'est quoi votre demande politique, avant de proposer une offre politique, ce qui est l'inverse de tout ce qui se fait ailleurs. Et d'autre part, son dynamisme, c'est un dynamisme à la fois de culte de la personnalité peut-être, mais aussi de très très bon stand-up comedian, quoi. Il est sur scène, tout seul, il harangue, il mobilise, il galvanise. Donc c'est la performance du discours, plus que le contenu du discours, qui marche extrêmement bien chez lui.
Frédéric Saïs.
Oui, il y a un côté télévangéliste qu'on a pu voir notamment à Porte de Versailles le 10 décembre, quand il avait rassemblé dans son grand meeting plus de 10 000 personnes, et on le sentait vraiment dans la salle, c'est-à-dire qu'il pouvait dire à peu près n'importe quoi, il y avait une sorte de transe, il y avait y compris des gens qui lui parlaient individuellement, qui lui disaient « on est avec toi Emmanuel », etc. C'était très marquant. Et puis, on peut se dire que si le même discours, les mêmes mots exactement, page pour page, étaient prononcés par d'autres personnes, Jean-Luc Benamias, des gens qui ne sont pas réputés pour leur art oratoire, qui ont d'autres qualités par ailleurs, il n'y aurait pas du tout le même effet. Donc, au-delà des mots, il y a aussi ce côté effectivement incarnation charismatique. On peut aussi se dire que cette question du travail, qu'on a entendu répéter à plusieurs reprises par Emmanuel Macron dans cette interview, ça permet de joindre, de faire une jonction électorale entre plusieurs catégories électorales très différentes, entre plusieurs CSP, comme on dit, très différentes. Parce qu'il y a le travail, valeur de droite, très, très marquée, qui parle à un certain électorat de la bourgeoisie, mais qui parle aussi à une bonne partie des classes populaires, qui voient le travail à la fois comme un mouvement émancipateur et comme un symbole de distinction par opposition à ces classes qui ne travaillent pas, qui profitent du système, ce qui est un sentiment évidemment très répandu. Et ça permet de parler à ces deux France-là, et c'est ce qui fait que d'ailleurs Emmanuel Macron monte, c'est qu'il arrive à parler à deux France jusqu'ici.
Vincent Trémolet.
Puisqu'on parle des mots et d'Emmanuel Macron, je pense qu'il y a un élément qui est signifiant, qui est un détail, mais le diable souvent se cache dans les détails. C'est la quatrième de couverture de son livre. Je ne sais pas si vous l'avez vu.
C'est
donc le livre Évolution. Et il n'y a pas de mots sur la quatrième de couverture. Il n'y a pas de mots, il y a un visage. Donc on en arrive à penser que peut-être le programme, c'est le visage.
Là, un autre discours, celui de François Fillon.
Le déclin est là. La colère monte. Mais ces gens-là vous disent qu'il ne faut rien changer. Contre le redressement national, mes adversaires ont rédigé leur tract. Sang et larmes, purge, casse sociale et pourquoi pas l'apocalypse. Il m'arrive d'entendre certains à droite utiliser les mêmes mots que la gauche. Que ma victoire ait pu décevoir certains, je puis le concevoir. Mais j'attends de mon parti de la responsabilité et de la discipline.
François Fillon, le 14 janvier 2017, c'était à la Mutualité. Cécile Albi, les mots de François Fillon.
Alors, les mots de François Fillon, c'est intéressant parce que on s'est beaucoup interrogé pourquoi Alain Juppé n'a pas fait le score qui lui était promis par les sondages. Et j'étais très surprise de regarder que, dans le détail, Alain Juppé avait un discours qui parlait les mots de la gauche, que ce soit l'identité heureuse, que ce soit le vivre ensemble, lorsqu'il utilise le terme de diversité, de tolérance, d'humanisme, tout ça, ça parle plutôt au centre, centre-gauche, et pas tellement à la droite conservatrice, alors que François Fillon, lui, il a le vocabulaire de la droite classique. Il va parler de la famille comme valeur fondamentale de la société, de l'agriculture et du monde paysan comme incarnation de la France, de la patrie, de la nation, de l'ordre, du mérite, de l'autorité, de la responsabilité, de la discipline. Et donc, il s'est adressé à son électorat et il porte un discours extrêmement calme, serein, sur son identité politique profonde, une droite assumée, pas décomplexée, parce qu'il a jamais été complexé, sur ce que c'était que la droite conservatrice.
Vincent Trémolet-Villers.
Oui, c'est ça qui était intéressant, notamment dans les débats de la primaire, c'est que François Fillon ne s'est jamais montré déclamatoire. C'est-à-dire que je me souviens, à la fin du dernier débat, Nicolas Sarkozy disait « La France a besoin d'autorité, j'ai cette autorité. La France a besoin d'énergie, j'ai cette énergie. » Donc il était dans la démonstration. Fillon était dans la monstration, je ne sais pas si c'est français, mais c'est-à-dire qu'il se contentait d'être là et d'incarner ce que venait de dire Nicolas Sarkozy. Alors il y a aussi un autre élément sémantique que vous avez relevé, qui est la captation par François Fillon d'une terminologie révolutionnaire qui appartient plutôt à la gauche et qui est celle de la liberté, qui est celle de la révolution, qui est celle de lutter contre les conservatismes, qu'il renvoie à la gauche tout en étant lui-même porté par un courant conservateur.
Mais vous notiez dans votre livre, Cécile Alduy, ce qu'ils disent vraiment, une certaine sobriété, pour ne pas dire austérité du discours d'Alain Juppé. Alors évidemment, a posteriori, on relit ça à sa défaite. Je ne sais pas si on a raison de relier ça à sa défaite, mais en tout cas, c'est une idée qui nous traverse l'esprit. On n'a pas l'impression que François Fillon soit très baroque en matière de vocabulaire et d'artifice rhétorique.
Il n'est pas baroque, mais il est radical. Il a une certaine violence rhétorique, mais sans coup de menton, sans coup d'épaule. C'est-à-dire que Juppé et sa sobriété, c'est une sorte de modestie. Donc quand il parle de révolution, dire c'est une petite révolution. Il euphémise à chaque fois ses propositions. Il est dans le rassemblement, l'apaisement, et du coup, il ne clive pas. François Fillon, il a un discours très viril, c'est lui-même qui emploie le mot. Il va dire qu'il faut muscler l'Europe, qu'il faut durcir telle ou telle législation, qu'il faut redresser, qu'il faut attaquer, qu'il faut combattre. Il a un discours, tout un vocabulaire guerrier qui insuffle tout son discours. Et il revendique la radicalité de son ton et de ses mesures, mais sans en faire tout un plat.
Il a un problème devant lui également, sur les tons et sur les mots utilisés, c'est qu'il risque d'être confronté au syndrome qu'on pourrait appeler Raymond Barre, c'est-à-dire le candidat qui promet des réformes qui sont, par son électorat, suspectées d'être justes, qui sont estimées, en tout cas, qui vont dans la bonne direction. Il y a la santé qui sera réformée, il y a les fonctionnaires dont on supprimera des centaines de milliers de postes, mais il n'y a pas l'espoir dans le message de François Fillon. Or, c'est ça qui va peut-être lui manquer à un moment donné, et c'est ça qu'il faut qu'il incarne dans la deuxième partie de sa campagne, maintenant qu'il a convaincu les électeurs de la droite, c'est qu'il y avait aussi un espoir en 2007, Nicolas Sarkozy. Il y avait l'identité nationale, il y avait des choses comme ça, mais il y avait aussi travailler plus pour gagner plus, c'est-à-dire je vais améliorer votre condition de vie. Là, pour François Fillon, ça n'existe pas. Ce qui fait d'ailleurs peut-être, on peut le penser, qu'il est très haut chez les retraités. Après tout, l'espoir pour soi, c'est pas une chose. Voilà, on a fait sa vie. Il est très bas chez les classes populaires qui visent à une amélioration de leurs conditions. Et c'est ce qui fait aussi peut-être qu'une partie d'entre elles sont restées chez Marine Le Pen, qui, elle, promet le retour de la France, le retour de la patrie et le retour de vous, Français.
On écoute Marine Le Pen.
La véritable question est, ne sommes-nous pas, parfois, davantage victimes de nos politiques que des événements en eux-mêmes ? La lucidité, le courage, la détermination et l'esprit de résistance sont des qualités que je ne décèle chez aucun des candidats potentiels issus du système, et dont je vous dis que parmi nous, parmi les patriotes, elle guide toute l'action et l'engagement politique.
Cécile Albi, vous avez particulièrement prêté attention au discours de Marine Le Pen.
Oui, alors ce qui est très intéressant chez Marine Le Pen, c'est qu'elle trace son sillon avec une marque de fabrique qui est concurrencée par la droite actuellement sur les sujets qui lui ont fait sa notoriété, l'immigration, l'identité nationale. Donc elle a besoin à chaque fois de se renouveler pour... d'un côté, rassurer sa base et la galvaniser, mais aussi pour essayer de gagner des marges de progression dans d'autres électorats qui ont été réfractaires au vote Front National pendant très longtemps. Et du coup, elle est un petit peu à mi-chemin entre, d'un côté, une radicalité décomplexée du discours d'extrême droite, et de l'autre, normaliser ce discours pour que tous les tabous qui ont enfreint le vote Front National tombe et qui soit maintenant normal et presque banal de voter Front National.
Alors ce qui va absolument dans votre sens, c'est que ce qu'elle cherche à faire, c'est-à-dire la France apaisée, le parti rassurant, est à rebours des victoires à l'étranger de ceux dont elle fait ses modèles. C'est-à-dire que Trump a gagné en disant tous les gros mots qu'il était interdit de dire et qu'elle essaye de ne plus dire. Et que le Brexit est passé avec des personnages complètement baroques et extravagants comme Nigel Farage, qui était sur les formes anciennes du populisme.
Mais vous avez une explication à cela, Vincent Trémolet-Villers. Vous savez pourquoi on n'a pas en France aujourd'hui de candidats baroques, vais-je dire?
Alors peut-être que le Front National avait... déjà ce discours-là autrefois, qu'il est installé, qu'il est sédimenté, qu'elle a plus besoin de faire ses transgressions, parce que c'est le parti transgressif par excellence. C'est peut-être une des explications.
Mais jadis, le Front National était plus, comment dire, fascistoïde que baroque.
Oui, alors moi je pense que l'extravagant est celui qui peut être le porteur de la colère aujourd'hui dans l'éloquence, c'est Jean-Luc Mélenchon. Celui qui aujourd'hui a la possibilité d'un discours qui puisse toucher les ressorts de l'inconscient collectif de ceux qui en auront le bol, notamment sur le plan social, ça peut être Jean-Luc Mélenchon, puisque le choix de Marine Le Pen est un choix beaucoup plus lissé d'apparaître comme un parti de gouvernement et de n'être plus ce parti hors des règles et hors des normes.
Un mot de conclusion à ce sujet, Cécile.
Oui, tout à fait, même, ça se repère dans le style. Jean-Luc Mélenchon est le seul qui est du style et un style qui transgresse les normes du discours politique, alors que Marine Le Pen s'est coulée dans le moule de la langue de bois politique qu'on entend dans tous les autres partis.
Merci en tout cas pour vos analyses, Cécile Alduy. Ce qu'ils disent vraiment les politiques, pris au mot aux éditions du Seuil, Vincent Trémolet-Villers. On vous retrouve dans les colonnes du Figaro